Kiosque Magazine.
Bon matin, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis en compagnie de Dominique Meillet ce matin.
Bonjour.
Mon nom est Louise Mercier. Alors, on va être deux seulement aujourd'hui. On va se partager la tâche. Je pense qu'on va être capable.
Oui. On va y arriver.
On va y arriver. Alors, cette semaine, l'émission sera, je dirais, un tantinet masculine. On parle beaucoup d'hommes, de papas, de parents.
De famille, d'enfants aussi, oui.
Exactement, mais je pense que tu commences avec des fleurs et le jardin.
Voilà, avec les fines herbes et les fleurs. Et puis, moi, je vous parlerai des papas beaucoup aussi. Et puis, une petite leçon de vie avec le vilain petit canard.
Ah bon? Et moi, je vais parler des hommes qui refusent de voir le médecin et de savoir parler aux hommes aussi. Alors, c'est ma portion un peu plus masculine. Pour finir, avec tatouer sur le cœur.
Qu'est-ce que je plante? Les fines herbes sont les plantes les plus faciles à cultiver. Elles sont jolies au jardin, comme dans des pots, et embellissent aussi bien la terrasse que le balcon. De plus, elles servent à la préparation des aliments et parfument la maison. Petit guide, pouce vert pour 9 variétés des plus populaires. C'est dans le Moi et compagnie de juillet, et c'est par Suzanne Duquette. Alors tout d'abord, la sauge. Exposition plein soleil, sol moyennement fertile et bien drainé. Cette plante peut aussi bien servir en cuisine que traiter les pieds endoloris. Les plants auront fière allure au jardin pendant environ 3 ou 4 ans si vous vivez en zone 5. Je crois que c'est à peu près maximum moins 23 degrés l'hiver. Dans les zones plus froides, cette herbe se cultive comme une annuelle. On cueille les feuilles au-dessus de la partie ligneuse. La menthe, c'est une exposition mi-ombre, un sol moyen à basse teneur en azote. La menthe est une plante envahissante qu'il faut garder en pot, même au jardin. On la contrôle en pinçant les bourgeons dès leur apparition. La menthe convient parfaitement à la culture à l'intérieur. Ne jamais cueillir plus d'un tiers de la plante à la fois. La ciboulette, c'est une exposition plein soleil ou mi-ombre, dans un sol drainé et riche en humus. Reine du jardin, la ciboulette s'ajoute non seulement aux salades, mais aussi aux soupes et aux sauces. La ciboulette à l'ail fait fuir les scarabées japonais. Au jardin, elle devient donc la meilleure amie du rosier. On peut la cultiver à l'intérieur sur un rebord de fenêtre, et ce, toute l'année. Le laurier sauce, c'est une exposition plein soleil dans un sol drainé constamment humide. Bel arbuste du jardin, on peut aussi garder le laurier sauce à l'intérieur tout l'hiver en prenant soin de le rentrer avant le premier gel. On procède à la cueillette des feuilles dès que le plant atteint 30 cm. Important, ne pas confondre avec le laurier rose, qui est une jolie plante, mais toxique. L'origan, exposition plein soleil dans un sol drainé, sol moyen. On confond souvent la marjolaine et l'origan. Pourtant, la première est très parfumée, alors que la seconde est poivrée. Cette plante peut être cultivée à l'intérieur comme à l'extérieur. Au milieu de l'été, les plants se couvrent de très jolies petites fleurs en épis. Le basilic, que tout le monde connaît, hein, c'est vraiment le plus connu de tous. Exposition plein soleil dans un sol drainé, humide et riche. Le type de basilic diffère d'un cultivar à l'autre. Grande ou petite feuille, saveur citronnée ou anisée, de couleur violacée, etc. Pour qu'un plant reste en santé, on pince les fleurs dès qu'elles apparaissent et on cueille les jeunes pousses en coupant la tête juste au-dessus d'une paire de feuilles. Le basilic peut être cultivé à l'intérieur, mais il faudra renouveler le plant chaque année. Le persil. Exposition plein soleil ou mi-ombre, dans un sol drainé, humide et fertilisé. Frisé ou plat, le persil s'utilise à toutes les sauces. Il est possible de planter le persil au jardin et de le rentrer à l'intérieur. Il a toutefois besoin de plus de soins que les autres fines herbes. Il demande une exposition plein sud et l'aide d'une lampe de croissance. Le romarin, qui est en exposition plein soleil, sol moyennement fertile et sec. On cultive cet arbuste au jardin dès que la température devient très clémente. On le déterre dès la fin de l'été, bien avant la période de gel, pour le garder dans un pot en terre cuite à l'intérieur. On cueille les aiguilles en coupant le bout des branches. Et enfin, le thym, qui est en exposition plein soleil dans un sol drainé et sablonneux. On l'utilise au jardin pour les bordures ou dans les sentiers. On en trouve de nombreuses variétés qui, dès le milieu de l'été, se couvrent de petites fleurs très odorantes. On peut cueillir le thym avant ou après la floraison. Il suffit de couper l'extrémité des tiges. Il se cultive aussi en pot. On transporte les plants à l'intérieur l'hiver. Saviez-vous qu'on cueille les herbes le matin, après la disparition des gouttes de rosée? Les fines herbes ont un goût plus prononcé avant la floraison et on peut choisir de les faire sécher ou de les congeler. Avez-vous pensé de les congeler dans des bacs à glaçons?
Oui, moi j'ai fait ça.
T'as fait ça? Alors après les plantes pour égayer les papilles, les fleurs pour égayer la maison. De jolies idées pour des compositions qui égayeront la maison. Alors d'abord la simplicité, des bocaux de verre teintés pour magnifier les pivoines. Choisir des fleurs à divers stades d'épanouissement. Dans l'un des bocaux, en placer 3 à 5 cm de l'ouverture. En ajouter 4 autres pour former une masse dense. Dans l'autre bocal, placer 2 fleurs dont les tiges sont de longueurs différentes, de façon à ce qu'elles soient plusieurs centimètres au-dessus du rebord. Un bouquet douceur. Alors, enlevez les feuilles des tiges, formez dans sa main un bouquet rond et dense en utilisant la majorité des fleurs. Attachez le bouquet avec un élastique à 3 cm de la base des tiges. Le placer dans le vase de manière que les fleurs arrivent sur le rebord. Ajoutez les autres fleurs de chaque côté du vase pour élargir la composition. Leurs tiges doivent être plus longues que les autres. Et enfin, le bouquet fraîcheur. On marie sans façon des fleurs du jardin avec des fines herbes, justement. Composez un bouquet lâche de branches de millepertuis après avoir enlevé les feuilles. Coupez les tiges et placez dans le vase pour que les baies se trouvent à la hauteur du rebord. Disposez les autres plantes au-dessus des baies, y compris de part et d'autre des tiges de menthe, en fleurs plus longues que les éléments de base, ainsi que 4 fleurs de hauteur et de couleurs variées.
Donc, en fait, pour l'histoire des bacs à glaçons, moi, je fais du pesto avec le basilic qui reste à l'automne. Puis, je mets tout ça dans des bacs à glaçons. Donc, je peux prendre
l'hiver, tu peux faire des petites pâtes au pesto.
Je trouve ça génial.
Oui, non, c'est vrai, c'est très bien. Très bon.
Alors, de la cuisine, on va passer à ces hommes qui refusent de voir le médecin. Alors, ça a été publié par Marie Lambert-Chang dans La Presse Plus du 2 août dernier. La moitié des hommes canadiens seraient en mauvaise santé, selon la Fondation pour la santé des hommes au Canada. C'est un nombre assez effrayant, convient le fondateur de l'organisme, le Dr Larry Goldenberg, éminent chirurgien urologue de Vancouver. Entre 18 et 40 ans, les hommes disparaissent du système de santé. À moins qu'ils ne se cassent un bras ou qu'ils ne se blessent dans un accident de voiture, ils ne consultent pas leur médecin, s'ils en ont un. Contrairement aux femmes qui, dès leur première menstruation, visitent régulièrement le médecin. Avec le temps, plusieurs hommes adoptent de mauvaises habitudes de vie, à commencer par la cigarette, la sédentarité, une mauvaise alimentation et une consommation excessive d'alcool. Tout cela les tue littéralement à petit feu. En effet, l'espérance de vie des hommes demeure plus faible que celle des femmes et ils devancent la gente féminine dans pratiquement toutes les catégories en santé physique et mentale. Maladies cardiaques, cancer du poumon, diabète, tabagisme, alcoolisme, toxicomanie, embonpoint, suicide, comportement sexuel à risque, etc. Les coûts sont immenses. En juin dernier, la FSHC publiait une étude affirmant que la mauvaise santé des hommes coûte 36,9 milliards par année au Canada. Le fardeau n'est pas qu'économique, il est aussi social. Près de la moitié des femmes âgées de 65 ans et plus sont veuves. Le stéréotype qui rend malade. Malgré toutes les campagnes promouvant de meilleures habitudes de vie, pourquoi un homme sur deux demeure-t-il aussi négligent envers sa santé? Parce qu'on est des Superman, répond Robert, non fictif. On est élevé ainsi. On nous dit qu'on doit être fort, qu'on doit protéger les autres. À 58 ans, Robert ne peut plus prétendre être l'homme d'acier. Pendant longtemps, il a brûlé la chandelle par les deux bouts sans écouter les signaux d'alarme. Aujourd'hui, il traîne les séquelles de deux accidents vasculaires cérébraux, d'une double fracture de la jambe et d'une labyrinthite aiguë, en plus de souffrir de diabète et d'asthme. « Je n'ai plus le choix de m'écouter et de me prendre en main », reconnaît-il, « mais ce n'est pas facile. » À l'image de Superman, le modèle masculin traditionnel veut que l'homme soit invincible, triomphant, débrouillard, en contrôle. S'il souffre, il doit le faire en silence, car exprimer sa douleur ou demander de l'aide sont des aveux de faiblesse. Pour plusieurs, c'est le signal que vous n'êtes pas un vrai homme, déplore Adam Garonne, PDG de Movember, qui se bat contre les stéréotypes masculins depuis qu'il a cofondé l'organisme connu pour sa campagne moustachue visant à amasser des fonds au profit de la santé des hommes. Les hommes s'estiment souvent en meilleure forme qu'ils ne le sont réellement. Ils ne consultent qu'en cas d'extrême urgence. Très souvent, il est très tard, parfois même trop tard, pour les réchapper. Gilles Rondeau, professeur émérite à l'École de services sociaux de l'Université de Montréal. C'est encore pire quand il s'agit de mots embarrassants. Tout ce qui touche au pénis, aux testicules, à la prostate, à l'érection, à la testostérone et aux difficultés urinaires gêne profondément les hommes, fait remarquer le Dr. Peter Chang, urologue au Centre universitaire de santé McGill. Bien que son père ait souffert d'un cancer de la prostate, Martin, 51 ans, a attendu 2 ans avant de consulter un médecin pour des problèmes qui surgissaient progressivement sous la ceinture. « J'avais du mal à uriner et à avoir une érection, mais ce n'était pas si grave. Je me disais tout le temps que ça allait revenir et je remettais ça à plus tard. Peut-être avais-je peur de ce que j'allais découvrir », dit celui qui s'en tire avec une hypertrophie bénigne de la prostate. Une telle attente aurait pu être fatale dans d'autres cas. Le Dr Chan donne un exemple, le cancer des testicules, deuxième cancer le plus répandu chez les 18-40 ans après celui de la peau. La maladie ne se décèle que par une petite masse, dit-il. On peut facilement l'ignorer. L'ennui, c'est que c'est un cancer qui, s'il n'est pas traité à temps, se répand rapidement dans le reste du corps. De l'aide rapide et concrète. Il n'y a pas que les hommes qui soient pris dans leurs stéréotypes. L'ensemble de la société l'est aussi, signale François Camus, directeur général de Réseau Hommes Québec. Y compris les professionnels de la santé, qui ne savent pas toujours sur quel pied danser avec les hommes qui les consultent. Des études ont démontré que les intervenants en santé se comportent différemment envers les hommes et les femmes, poursuit M. Camus. Un médecin sera plus enclin à demander à une femme de lui partager ses inquiétudes, par exemple. Selon Gilles Rondeau, malgré l'état actuel du système de santé, il faut tenter de fournir une aide rapide et concrète aux hommes dans le besoin. Un homme qui se présente dans un service de santé veut être vu le plus vite possible, remarque-t-il. Si on lui offre un rendez-vous dans 2 semaines, c'est comme si on lui refusait le service. On vient de le perdre. Il faut pouvoir l'accueillir la journée même ou le lendemain. Il faut aussi tenter de trouver une solution pour le mobiliser immédiatement et lui donner un début d'espoir. Si on se donne la peine, la réponse des hommes est extraordinaire. Le Dr Chang le constate chaque année pendant sa clinique annuelle sur la santé des hommes. Au cours des 10 dernières années, son équipe et lui ont offert bénévolement un bilan de santé à plus de 3000 hommes qui s'y sont arrêtés. La clinique est si populaire que des hommes nous appellent des mois à l'avance pour nous demander où nous la tenons, indique le Dr Chang, qui exceptionnellement cette année a dû annuler l'événement en raison du déménagement du CUSM. Certains patients étaient très déçus, se désole-t-il. Plus jamais je ne l'annulerai.
Mon mari est bien malade, en grand danger d'y mourir.
Mon mari est bien malade.
Guérir le médecin. chercher monsieur le curé pour qu'il vienne prier pour lui. Oh, je l'aimais tant, 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 je l'aimais tant, mon mari.
Je l'aimais tant, 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 je l'aimais tant, mon mari.
J'envoie chercher monsieur le curé qu'il vienne prier pour lui.
J'envoie chercher monsieur le curé pour qu'il vienne prier pour lui.
Je lui fis chanter de Libéra qui dure 3 minutes et demie. Oh, je l'aime bien gros, mon mari, mais je l'aime bien mieux mort qu'en vie.
Je l'aime bien gros, mon mari, je l'aime bien mieux mort qu'en vie.
Je lui fis chanter de Libéra qui dure 3 minutes et demie.
Marie est bien malade. C'était par Yves Lambert et Linda Tally. La leçon de vie du petit canard, c'est par Sophie Durocher dans le Moi et compagnie de juillet 2015. Tous les soirs avant le dodo, je lis une histoire à mon fils. Des fois, c'est un super-héros qui sauve des villes entières. Des fois, c'est une souris avec un nom de fromage qui rencontre des sorcières et des sirènes. D'autres fois, c'est un grand classique. La chef de Monsieur Seguin, Jacques et le haricot magique, etc. Je lis ces livres en ayant l'esprit un peu ailleurs. Après tout, ce sont des histoires pour enfants. Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, je pourrais bien en tirer ? Cette semaine, j'ai lu à mon fils l'histoire du vilain petit canard que ma mère m'avait lu 35 000 fois quand j'étais petite. Et j'ai été émue aux larmes. Cette histoire toute innocente, dont j'avais un peu oublié les détails, est une leçon de vie absolument essentielle et incontournable. La maman canne couve ses œufs, mais quand ils se fendillent, il y a parmi les canetons, mignons comme tout, un vilain petit canard qui ne ressemble pas au reste de la couvée. Comme il est rejeté et insulté par les autres canetons et qu'il se moque de lui, le vilain petit canard quitte la canne. Mais il est aussitôt insulté par plein d'autres animaux qu'il croise sur sa route, jusqu'au jour où il rencontre des cygnes. Il se met à nager avec eux, puis se rend compte que sa vraie nature n'est pas d'être un canard, mais plutôt un cygne. Dans mon souvenir, cette histoire était un peu gnangnan. Mais avec le recul, l'âge et l'expérience de vie, je n'y porte plus le même regard que lorsque j'étais moi-même une enfant. On est tous, à un moment ou l'autre de notre vie, un vilain petit canard. On se retrouve dans une classe, dans un groupe d'amis ou dans un milieu de travail où on ne se sent pas à sa place. Les autres nous repoussent. On pense que c'est nous qui avons un problème. On se met à se haïr en se disant que les autres ont raison. Mais la plus belle leçon que nous apprend le vilain petit canard, c'est qu'il n'est pas du tout vilain, justement. C'est juste qu'il n'a pas trouvé son groupe, son appartenance. Il n'a pas trouvé qui il était vraiment. En déposant le livre d'histoire, c'est ce que j'ai expliqué à mon fils. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver à un moment ou l'autre de ta vie que tu es différent, que tu n'es pas comme eux. Et tu sais quoi ? Tu n'es pas comme eux. Et c'est parfait comme ça. En fait, on sera toujours le vilain de quelqu'un. Sincèrement, moi je m'en fous. Je sais que je ne suis pas un canard. La seule chose que j'espère, c'est que mon fils va lui aussi découvrir rapidement sa vraie nature, qu'il va vite trouver son appartenance, qu'il va se regarder dans le miroir ou à la surface d'un étang, voir son image et aimer ce qu'il verra.
Oui, une très belle leçon de vie, en fait. Donc, moi, je continue avec les hommes qui ne veulent pas aller voir le médecin. Donc, « Savoir parler aux hommes » par Marie Lambert Chang, publié dans la presse Plus du 2 août. Ça ne sert à rien de dire simplement aux hommes « Allez voir le médecin chaque année », croit Adam Garon, PDG de Movember. « Nous n'aimons pas nous faire dire quoi faire. Nous voulons le découvrir par nous-mêmes et comprendre pourquoi c'est important. Nous voulons aussi avoir des modèles, être inspirés par d'autres hommes. » Savoir parler aux hommes est essentiel pour inciter ces derniers à adopter un régime de vie plus sain, chose importante quand on sait que 70 % des troubles de santé chronique de la gente masculine sont causés par de mauvaises habitudes. Le hic, c'est que parler mal est loin d'être simple. Selon nos recherches, il existerait au moins 6 façons différentes de s'adresser aux hommes, affirme le Dr Larry Goldenberg. Au cours de la prochaine année, l'organisme a l'intention d'utiliser ces données pour raffiner la façon dont il communique avec les hommes, entre autres par l'entremise de son site Pour ma santé, un outil anonyme et confidentiel qui permet aux hommes de faire leur bilan de santé en moins de 10 minutes. Les conseils qui suivent le bilan de santé pourront être modifiés en fonction de la personnalité de l'utilisateur, indique le Dr Goldenberg. Par exemple, un homme qui se pense fort et invulnérable, mais qui risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire, recevra un message fondé sur la peur, du type « X marathoniens sont morts l'an passé d'une maladie cardiaque dont les causes demeurent inconnues ». Un homme qui est en bonne santé, qui a de bonnes habitudes de vie, mais qui fait un peu de cholestérol, nous dirons simplement « mange moins d'aliments riches en matières grasses ». Sur mesure, pour Adam Garon, les campagnes de sensibilisation destinées aux hommes sont vouées à l'échec si elles ne sont pas taillées sur mesure pour eux. Movember a travaillé fort pour créer des messages drôles, irrévérencieux et positifs, et c'est ce qui explique notre succès, estime-t-il. Sermonner un gars n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. François Camus, directeur général de Réseau Hommes Québec, abonde dans le même sens. Il faut miser sur les forces des hommes pour amplifier leur bon comportement. On ne leur dit pas « arrête de manger des hamburgers », mais plutôt « mangez-vous de la salade ? Si oui, pouvez-vous en manger un peu plus ?» Et surtout, ajoute-t-il, il faut cesser de minimiser la souffrance des hommes, comme on le fait, par exemple, quand on blague sur les grippes d'hommes. Ce sont des niaiseries qui semblent anodines, mais qui poussent des hommes à se renfermer et à ne plus demander d'aide.
Bonjour Tristesse, vous arrive-t-il d'écouter en boucle des chansons tristes lorsque vous vous filez un mauvais coton ? Eh bien, continuez. C'est très bon pour le moral, conclut une récente étude scientifique de l'Université libre de Berlin. Non seulement les musiques mélancoliques permettent d'évacuer les émotions négatives, mais elles sont source de réconfort, d'apaisement et d'émerveillement. On le saura.
Avec la multiplication des tablettes et des iPods et tout ça, on commence à avoir des problèmes avec les enfants qui sont toujours sur leur tablette ou sur leur iPod. J'ai l'expérience personnelle avec mes deux nièces. Alors, il y a Julie Raymond qui préconise de saines habitudes dès 2 ans. Donc, Julie Raymond est psychologue spécialisée auprès des enfants de 0 à 6 ans. Elle passe beaucoup de temps chez les familles. Son constat est clair. Très souvent, si les enfants sont accros aux écrans, c'est qu'on les a habitués dès leur tout jeune âge. C'est aux parents à installer les bonnes habitudes dès qu'ils sont petits et à ne pas tomber dans le piège de la télévision et autres tablettes. Je crois que ça démarre comme ça, dit-elle. La psychologue constate que le matin, en semaine, beaucoup de parents installent les tout-petits devant la télé ou une tablette, le temps de se préparer avant d'aller au boulot. Même chose le soir. La semaine, ces enfants passent souvent plus de temps devant les écrans qu'en interaction avec leurs parents. Alors que ça devrait être le contraire. Ce temps en famille est précieux. À cet âge, les enfants ont besoin de l'interaction avec leurs parents, autant sur le plan cognitif qu'affectif. Des pistes. Couper les écrans peut sembler difficile. Pourtant, les familles à qui elles conseillent d'éliminer la télé durant la semaine s'en portent bien mieux. Les enfants font aussi moins de crises. Et la transition a été plus facile qu'elles ne l'appréhendaient. En l'espace de 2 jours, les tout-petits oublient la télé, souligne-t-elle. Julie Raymond suggère de remplacer les écrans par d'autres activités parents-enfants. Bataille d'oreiller, casse-tête, jeux de société, jeux de cachette dans la maison ou à l'extérieur, jeux d'eau, jeux de ballon, dessin. Pour être moins pressé les jours de semaine et consacrer plus de temps aux enfants, pourquoi ne pas changer quelques habitudes? Prendre sa douche le soir quand les enfants dorment, tout comme préparer les vêtements la veille, ou encore faire la vaisselle une fois que les enfants sont couchés. Quand les enfants sont habitués aux écrans aussi petits, il est normal qu'ils ne sachent pas comment s'occuper autrement plus tard. Alors, on revient après la pause, encore avec des sujets. Là, ça va être plus parents et pères, hein, Dominique?
Oui, oui, oui. On va parler des papas.
À tout de suite.
À tout de suite. Ils mettent leur carrière en veilleuse pour tisser des liens étroits avec bébé, exigent des horaires flexibles pour mieux s'investir dans la routine familiale et multiplient les marques d'affection. Les papas de la nouvelle génération brisent le moule du pourvoyeur pour inventer leur propre définition de la paternité. C'est par Julie Champagne et c'est le nouveau visage du père. C'est dans le mois et compagnie de juillet. En couple depuis 13 ans, Christian a 3 adorables fillettes. Cette joyeuse marmaille occupe le premier plan dans sa vie. « Il est essentiel pour moi de faire partie de la routine de mes filles », explique-t-il en donnant le biberon à la cadette de la famille. « J'ai choisi de ne pas donner de cours le soir à l'université. Je décline des contrats d'illustration et je refuse de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Je préfère sacrifier des revenus plutôt que de diminuer le nombre d'heures passées avec mes enfants. J'aime discuter » et dessiner avec elles, leur donner le bain, les faire rire. Je profite de ces moments privilégiés que m'apporte la paternité, comme faire une sieste avec mon bébé sur le ventre ou organiser des activités spéciales avec les 2 plus grandes. Pour moi, la paternité doit se vivre au quotidien. Il est loin le temps des pourvoyeurs autoritaires. Qu'ils soient séparés ou en couple, la majorité des pères québécois souhaitent maintenant prioriser la relation avec leur enfant. Il s'agit là d'une excellente nouvelle, surtout que les études confirment que la présence du père a un effet positif sur le développement de l'enfant. Il y a actuellement un rapprochement qui s'opère entre les identités féminines et masculines, indique Diane Gabrielle Tremblay, spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail. Les pères se rapprochent des valeurs familiales, alors que les mères assument aussi des responsabilités professionnelles. Il y a une meilleure équité. La figure paternelle est donc en pleine transformation. Un élément déclencheur de cette révolution paternelle, la création du congé de paternité en 2006. Selon les statistiques de 2012, 76% des pères québécois se prévaudraient de ce congé. Le terreau était fertile, explique Diane Gabrielle Tremblay. À la fin des années 90, les pères québécois exprimaient déjà leur volonté de prendre plus de place au sein de la famille. Les employeurs se montraient toutefois réticents et faisaient comprendre aux employés que les enfants ne relevaient pas de leurs responsabilités. Avec la création de ce congé, non transférable à la mère, le marché du travail a été forcé de s'acclimater. Toutefois, cette conciliation demeure un défi pour plusieurs pères. À 47 ans, Christophe a décidé de quitter le domaine de l'informatique afin de retourner aux études en hypnologie. Sa motivation ? Reprendre le contrôle de son horaire pour consacrer plus de temps à ses deux enfants. La paternité est difficile, dit-il. Entre deux courses contre la montre, il reste peu de temps pour les devoirs et les jeux avec les enfants, pour leur transmettre nos valeurs et notre amour. Je ne voulais pas me réveiller un matin avec le regret de ne pas avoir pu partager l'essentiel avec eux. Pas de doute, le rôle paternel est plus complexe et exigeant que jamais. Être père ne se résume plus à transmettre une série de valeurs héritées du passé, poursuit Christophe. Il faut analyser, trier, faire confiance à notre jugement. En clair, les pères doivent eux aussi maîtriser l'art de la jonglerie. Quand j'avais la garde partagée, la conciliation avec le travail était parfois ardue, reconnaît Philippe, papa d'un garçon de 5 ans. J'occupe un poste de directeur qui implique parfois de rester tard au bureau. Quand je refusais de faire des heures supplémentaires parce que je devais aller chercher mon gars, j'avais l'impression que mes patrons grinçaient des dents. Dans les faits, c'était surtout moi qui me mettais de la pression. Je me sentais négligent de ne pas être présent pour prendre les décisions qui me revenaient. Depuis que son ex-conjointe a déménagé en région, Philippe a la garde de son fils les fins de semaine. Les premiers mois, je me sentais obligée de le divertir avec des activités spéciales. Je mettais une pression immense. Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de faire quelque chose de grandiose. Il suffit d'être ensemble, tout simplement. Séparé depuis 3 ans, Hugo se bat contre le perfectionnisme parental. « J'aimerais pouvoir organiser des sorties spéciales et des voyages avec ma fille, mais mon budget ne me le permet pas. Parfois, ça m'affecte. Je sais pourtant que les enfants se contentent de peu et que le plus important, c'est d'être présent et à l'écoute. Plus le temps passe, plus je réalise que quelques minutes par jour suffisent pour accomplir de belles choses. Par exemple, cette semaine, j'ai enlevé les petites roues de la bicyclette de ma fille et je lui ai montré à faire du vélo comme une grande. C'était magnifique. » Alors que le dogme paternel disparaît, il n'est pas toujours simple pour les nouveaux papas de trouver leur place au sein de la dynamique familiale. Nous vivons à une époque où le père ne sait plus trop quel est son rôle, croit Christophe, en couple et père de 2 enfants. Le rôle du père n'a plus rien de traditionnel. Il y a la monoparentalité, les familles recomposées, les couples homosexuels. Force est de constater que si la figure paternelle fait partie des choses importantes pour le développement des enfants, elle n'est pas forcément indispensable. Diane Gabrielle Tremblay confirme d'ailleurs que de nombreux pères réussissent à apprivoiser leur rôle une fois qu'ils se retrouvent seuls avec l'enfant. Quand la femme est présente, l'homme a encore tendance à se conformer à sa vision des choses. Ainsi, plusieurs pères prennent une partie de leur congé de paternité un peu plus tard, quand le bébé est plus vieux. Ils se retrouvent alors seuls avec lui et se sentent libres de faire les choses à leur manière.
Alors, on a passé du père. Maintenant, moi, mon article porte plus sur les parents en général. Alors, savoir retrouver votre autonomie quand les préados commencent à émerger dans la famille. Alors, c'est un article de Anne Guénière qui a paru le 1er août dans la Presse Plus. Entre 8 et 12 ans, au moment de la préadolescence, les enfants commencent à se détacher tout doucement de leurs parents. Il est tout à fait normal que les adultes ressentent alors un vide et une certaine angoisse devant cet avant-goût de ce que sera la vie quand leurs petits auront quitté le nid familial. C'est le moment pour eux de repenser leur propre vie, leur couple et de préparer le départ des enfants. Déjà? Oui, déjà. Au début, on se délecte. Quel bonheur de lézarder au soleil sans être harcelé par des « j'ai faim, tu peux jouer à la poupée avec moi? » Mais très vite, un gouffre apparaît. Le silence dans la maison quand les enfants sont partis jouer chez des amis. Des heures entières devant soi, avec une liberté totale. Ce n'était plus arrivé depuis des années. C'est déstabilisant. Quand les enfants grandissent et commencent à prendre de l'autonomie, ce temps libéré est souvent vécu d'abord comme une grande réjouissance par les parents, car l'éducation de jeunes enfants est très aliénante. Mais ensuite, les parents, notamment ceux qui se sont beaucoup réalisés dans la parentalité, peuvent se sentir perdus et doivent réinventer ce temps libéré, observe Béatrice Cooper-Royer, psychologue clinicienne française, auteure du livre « Le jour où les enfants s'en vont ». Plus ça fait longtemps qu'on s'est oublié, plus c'est difficile de se réapproprier ce nouveau temps libre. Certains parents considèrent même l'éloignement de leurs enfants comme une ingratitude de leur part, ajoute Nancy Doyon, éducatrice spécialisée, coach familial et présidente de SOS Nancy. À 37 ans, Véronique, maman d'un garçon de 10 ans et de jumelles de 6 ans, a hâte d'avoir plus de temps pour elle. « Mais je sais que ça va venir aussi avec plus de solitude », confie-t-elle. Déjà, son aîné ne veut plus toujours les accompagner lors de certaines sorties qui ne l'intéressent plus. « Je réalise que dans 2 ou 3 ans, ce sera au tour des filles », lance-t-elle. C'est sûr, ces week-ends, toujours très chargés, vont lui manquer. Une nouvelle étape. Mais consciente qu'une nouvelle étape de sa vie s'ébauche maintenant, elle commence à penser à tout ce qu'elle pourra faire. Recommencer les grandes promenades que son conjoint et elle aimaient en faire avant, intégrer une chorale, pratiquer la danse. Du coup, elle n'appréhende pas l'avenir, mais s'y prépare déjà un peu. La préadolescence des enfants est en effet le bon moment pour se poser des questions et penser à l'avenir. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Les parents ne seront pas éternellement des parents, alors autant anticiper ce moment, Béatrice Cooper-Royer. Selon la psychologue, le passage n'est pas forcément compliqué si on est déjà bien occupé. Les émotions pénibles interviennent quand l'investissement dans les enfants a été excessif, qu'on a négligé sa vie personnelle pour se centrer sur eux. Geneviève, 45 ans, mère de 2 garçons de 21 et 19 ans, l'a sentie venir. Après la naissance de ses enfants, certes, elle n'a jamais arrêté d'aller à la salle de gym pour s'entraîner, de voir des amis et de concocter des repas en amoureux avec son conjoint, mais elle a arrêté de travailler pour les élever et reconnaît que sa vie était calquée sur celle de sa famille. « Quand ils ont eu moins besoin de moi et que je commençais à me demander à quoi j'allais servir, le plus jeune était encore à la fin du primaire, j'ai retravaillé un peu. Ça m'a beaucoup aidée », raconte-t-elle. Et le couple? Pour le couple non plus. La transition n'est pas facile après tant d'années avoir été parfois balayée par la vie familiale. D'ailleurs, l'âge moyen au moment du divorce au Canada, 44 ans chez les hommes, 42 ans chez les femmes, coïncide souvent avec l'adolescence des enfants. Nathalie, 44 ans, et son conjoint, qui ont une fille de 21 ans et un garçon de 18 ans encore à la maison, ont réussi à rester soudés. Pour occuper leur nouveau moment de liberté, il y a quelques années, ils ont acheté un bateau. Comme ça, que les enfants soient là ou pas, on fait une activité ensemble qui nous plaît, explique Nathalie. Le bien-être des parents à ces moments charnières est d'autant plus important qu'il a un impact fort sur leur progéniture. Le risque, s'ils n'ont pas de solution de rechange affective et d'intérêt propre, c'est qu'ils s'accrochent à leurs enfants et les empêchent plus ou moins consciemment de s'autonomiser. Béatrice Cooper-Royer voit de nombreuses familles dont les relations se gâtent parce que les parents étouffent leurs adolescents qui se rebellent. Il faut leur donner l'autorisation de voler de leurs propres ailes, comprendre qu'il faut leur laisser de la liberté sans pour autant les abandonner, bien sûr, poursuit la psychologue. Accepter dès le départ l'idée que les enfants s'éloigneront un jour permettrait rapidement de les autonomiser et de prendre soin et de prendre soi-même une certaine distance. L'impact sur l'enfant est positif. S'il est habitué à ce que tout soit centré sur lui, on lui amène une image biaisée de l'autre, met en garde Nancy Doyon. Ne pas répondre à tous ses désirs immédiatement l'aide également à développer une certaine sécurité affective qui lui permettra de savoir gérer ses tristesses sans avoir recours systématiquement à ses parents. Finalement, quand les préados commencent à prendre le large, les parents devraient en profiter pour réapprendre à le faire aussi, pour leur bien et celui de leurs enfants. « Alors, en continuité avec le premier article, les profils à risque de couple pour Anne Guénière sont, au moment du départ du détachement de ses enfants, remontent à la surface toutes les blessures que l'individu, père ou mère, garde en lui. Selon la vie qu'ils ont vécue, certains parents sont donc plus vulnérables et plus susceptibles que d'autres de vivre difficilement le détachement progressif de leurs enfants. Les parents anxieux vivront d'autant plus mal cet éloignement qu'ils s'inquiéteront pour eux, n'étant plus là pour les protéger. C'est par exemple le cas des familles monoparentales. Les mères sacrificielles, veuves ou divorcées, qui se sont beaucoup données à leurs enfants, peuvent ressentir un énorme vide, relève Béatrice Cooper-Royer. Et ils vont avoir du mal à laisser leurs enfants prendre un peu de large. Les parents, pour lesquels la séparation avec leurs propres parents s'est mal passée, peuvent voir dans l'éloignement de leurs enfants une résonance angoissante avec leur expérience. Plus dur en cas de vide affectif. La situation des parents au moment de la préadolescence, comme au moment où leurs enfants quitteront le domicile familial, peut également avoir beaucoup d'impact sur la façon dont ils vont réussir à vivre la transition. Selon qu'ils sont occupés professionnellement, à la retraite ou au chômage, le passage est envisagé sereinement ou dans l'angoisse de la séparation, souligne la psychologue. Pour peu que cette période arrive au moment où les adultes traversent le cap de la quarantaine, avec toutes les remises en question que cela implique parfois, la situation est d'autant plus complexe à gérer émotionnellement. C'est parfois, d'ailleurs, l'éloignement grandissant des enfants qui précipite ces réflexions existentielles. Enfin, l'éloignement des enfants peut être vécu de façon particulièrement pénible par les parents qui souffraient d'un important vide affectif que les enfants ont comblé, estime Nancy Doyon. Jusqu'à l'âge de 9-10 ans, les enfants sont dans un contexte fusionnel, si bien qu'ils renvoient une image positive à leurs parents, ils en sont dépendants, sont affectueux, ne veulent pas s'en éloigner. Mais vers 11-12 ans, ils ont un besoin impératif de se détacher, ce que les parents peuvent vivre comme un abandon, une blessure, car ils avaient noué un lien de dépendance avec leurs enfants.
Oublie le son, l'art et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai un plus gros défi, un truc où faudra pas non pas que tu te défines. Oublie le son, l'art et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai le résultat de nous deux, un fruit qui sereinement nous fera devenir vieux. Oh, un à nous, je sais, on l'avait dit souvent, et je l'avais inventé mille fois en te regardant. Alors maintenant que c'est bientôt et que c'est sûr, tu vois, 9 mois, ce sera pas trop. Faudra qu'on soit comme on avait cru qu'on serait à l'âge de critiquer, sans savoir combien c'était compliqué. Faudra non pas en attendre trop, je sais, et pas non plus à l'inverse trop. L'admirer, faudra de bonne colère, mais justifier jamais de mépris, pas se sentir obligé d'être populaire à tout prix. De bonne manière, mais de bonne manière, c'est quoi? Regarde, tous les jours comme je jure, je sais pas déjà merci. Bonjour, c'est sûr, c'est indispensable, mais pour le reste, j'espère que dans son cartable, il y aura quelques fables à la morale béton. Le corbeau, le renard, ou ces histoires subtiles de petits poissons, oui. Oublie le son, l'art et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai le résultat de nous deux, un fruit qui sereinement nous fera devenir vieux. Ils disent faudra que je me comprenne pour que tu te comprennes, puis que tu me comprennes pour qu'on s'apprenne. Ce qu'ils disent en gros, c'est que faudra qu'on s'aime et qu'il y aura certainement des efforts, des mots qui saignent. Et je te dirai, c'est pas grave quand c'est pas grave, et même quand ça l'est, c'est ça le vrai boulot. Couvrir et couver, faut se faire les soucis de son âge pour grandir au rythme des pages qui se tournent, tu sais moi. On m'a fait répéter par cœur, y'a pas de mauvais élèves, y'a que de mauvais professeurs. Ce sera dans le soutien et pas dans le conflit. Putain, mais pourquoi je suis persuadé que tu seras une fille? Oublie le son, l'art et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai un plus gros défi, suffit un truc où faudra pas non pas que tu te défiles. Oublie le son, l'âme et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix. Elle me dit gentiment là au fond de moi, j'ai le résultat de nous deux, un fric qui sereinement nous fera devenir vieux. C'est pas vrai, je vais pas en avoir de bébé, mais je me laisse souvent divaguer. Ça veut dire que t'y crois en l'avenir, que tu le vois, et le pire, oui le pire, c'est que ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça voudrait dire que tu m'en as fait un, tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un. Oui non, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que ça voudrait dire que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un.
Eh bien, c'était Ben Mazoué avec la chanson Papa. Et moi, je vais vous parler des Papa Gaga. C'est par David Bernard dans Le Moi et Compagnie de juillet, toujours 2015. Il y a quelques années, j'étais bien amusée par les parents gaga. Vous savez, ceux qui s'empressent de montrer des photos de leur progéniture et de vanter son tout dernier exploit. Jusqu'au jour où je suis moi-même devenue papa, bien sûr. Ses premières dents sont sorties. Il dit « Maman, elle fait pipi dans son petit pot ». Je l'avoue, ça me faisait bien rire d'entendre ses nouveaux parents s'extasier sur chacun des gestes de leur enfant. Et puis, un jour, je suis devenue père. Coup de foudre instantané. C'est lors de ce moment extraordinairement puissant, peau à peau avec mon enfant, que mon cœur s'est ouvert plus grand qu'il l'avait jamais été auparavant. J'ai pleuré de joie pendant de longues minutes et j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais maintenant un papa gaga. C'est à ce jour l'émotion la plus profonde et marquante que j'ai ressentie, l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Depuis, pas une seule journée ne passe sans que je me pose cette question. Être un bon parent, ça veut dire quoi exactement? Je ne prétends pas avoir trouvé la réponse à cette question, c'est un processus propre à chacun. Toutefois, je vous livre ici avec beaucoup d'humilité mes réflexions à la suite de ma première année en tant que papa. Avoir un enfant, c'est magique. Toutefois, la première année en tant que nouveau parent n'est pas toujours composée que de moments de magie. Du jour au lendemain, prêt, pas prêt, on doit renoncer à une part importante de notre sommeil, de notre liberté, de notre spontanéité, de notre vie de couple. On renonce à plusieurs choses, finalement. Parce qu'être un bon parent, c'est d'abord et avant tout être prêt à faire des sacrifices. Pour moi, être un bon papa, ça ne signifie pas seulement faire en sorte que ma fille soit en sécurité et qu'elle mange à sa faim. Je veux qu'elle sente que je suis présent pour elle. Je marchais au parc récemment et j'ai vu un papa qui poussait sa fille dans une balançoire. Il la poussait d'une main tout en regardant son téléphone. Ça m'a rendu triste pour elle, mais surtout pour lui. Parents, soyez présents de corps et d'esprit. À notre époque où les liens virtuels sont de plus en plus privilégiés, il est essentiel d'enseigner à nos enfants l'importance d'établir des contacts dans la réalité. Aujourd'hui, on se parle par texto. On s'envoie des messages sur Facebook, on tweet nos opinions. Mais qu'en est-il de notre capacité à socialiser entre nous, en personne? Oui, c'est important que nos enfants connaissent la technologie. Ma fille d'un an sait comment fonctionne un iPad. Mais n'est-il pas plus censé d'enseigner d'abord aux générations futures comment exprimer leur humanité dans la réalité et non dans la virtualité? Je suis un papa gaga. Oui, mais j'ai surtout envie d'être un papa défi. À mon sens, la meilleure manière d'aider mon enfant à évoluer est de la laisser relever ses propres défis et de ne pas tout faire pour elle. Je veux offrir à ma fille de solides fondations pour qu'elle vive ses passions et qu'elle prenne des risques avec confiance, tout en m'assurant qu'elle sait que je l'aime à l'infini. Après tout, je suis un papa gaga. Et je serai toujours là pour elle.
Ah, Alors, après avoir parlé d'un papa gaga, moi, je vais parler d'un papa qui s'est tatoué sur le cœur.
Ah, on peut être gaga et tatoué. Oui. Je pense que c'est pas incompatible.
Oui, je pense qu'il est gaga aussi. C'est pas écrit dans l'article, mais on va voir. Alors, c'est un article de Isabelle Morin dans la presse Plus qui a été publié le 31 juillet dernier. Le tatouage est un choix esthétique, affirme de prime abord Mathieu Sirot. Approfondissez quelque peu la question et il vous parlera toutefois de valeurs, d'engagement et d'autres bien belles choses qui témoignent de ce qu'il a de tatoué sur le cœur autant que sur la peau. Son premier tatouage, Mathieu se l'est fait faire à 18 ans. Un soleil dessiné sur l'épaule, plutôt moche, de la vie de celui qui l'a porté et fait recouvrir depuis. Un signe de virilité bête d'adolescent, dit-il encore, en riant volontiers de ce péché de jeunesse. À l'époque, ce tatouage doit constituer le sceau d'une amitié, serment qu'il sera finalement le seul à honorer après avoir été l'unique membre de sa bande à se présenter au rendez-vous. Mais cette audace sera néanmoins l'amorce d'une série de tatouages ancrés dans sa peau pour sceller ce qui est ancré dans sa vie. Le bon Dieu sans concession. Ce fameux soleil a laissé des rainures qui texturent aujourd'hui en filigrane un cœur sacré stylisé, l'un des vestiges d'une enfance baignée dans l'eau bénite, près des falaises de Bretagne et marqué par certains récits rocambolesques, associés à la religion catholique. J'ai toujours trouvé ça joli, l'esthétique qu'on retrouve dans les églises, tout comme les histoires qu'on y raconte. Gamin, quand je m'ennuyais durant les célébrations religieuses, je m'y attardais, se souvient-il avec un sourire amusé. Terreau foisonnant pour un garçon à l'imagination fertile, cet univers a influencé d'autres de ses « bondieuseries », comme il se plaît à qualifier ses tatouages, dont l'esthétique rappelle celle des vitraux religieux. Cette Vierge Marie rayonnante, par exemple, qui occupe la face interne de son biceps droit. Je trouve qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux tatouages religieux, mais c'est un art moderne qui revient en force. Je pense que c'est un super classique. Mathieu Sirot. Pourquoi la Sainte Vierge? Aucune idée, lance-t-il avant de confesser la suite. Peut-être qu'il y a un truc autour de la protection. C'est une métaphore intéressante, la mère de toutes les mères, pureté et maternité incarnée dans un même personnage. C'est un beau symbole d'innocence et de commencement. Mais ne cherchez pas à intellectualiser davantage. Ces tatouages sont avant tout question d'affinité artistique, des choses qui le font kiffer, comme ces têtes de mort dont il aimait l'esthétique, des élans qu'il faut interpréter de manière ludique, mais qui correspondent néanmoins à ses valeurs. Lorsqu'on aborde les lettrages qui ornent son bras gauche, on tombe toutefois dans un autre registre. Tu peux te faire tatouer n'importe quoi, comme connerie, un écureuil, une tête de loup, mais quand tu mets le nom de quelqu'un, tu passes à l'étape supérieure. Ce n'est plus anodin, souligne Mathieu. Sur sa peau, les lettres qui composent les prénoms de ceux qui comptent le plus à ses yeux, ceux de sa femme et de ses deux enfants, qu'il a fait inscrire en trois temps pour marquer chaque moment. Sa fille, qui commence à lire, est d'ailleurs fière d'y lire le sien. Le truc qui m'inspire le plus dans le tatouage, c'est le côté « à vie ». Certains diront que de se faire tatouer un nom est une erreur. Pour Mathieu, ces inscriptions à l'encre, immuables, sont celles qui ont le plus de sens. Car pas question de passer sous le laser pour effacer aucun des dessins qui ornent son corps. Un tatouage, c'est pour toujours. C'est ce qui m'excite le plus. C'est une décision que tu prends qui influe le reste de ta vie. Cet engagement qui ferait prendre leurs jambes à leur cou à certains, il le conçoit, pour sa part, comme une preuve d'amour pérenne. Faire inscrire les noms de ma femme et de mes enfants sur ma peau, c'est le plus gros statement que je puisse faire.
Pour continuer dans les histoires familiales, j'ai une petite brève concernant les enfants. Votre bambin vous raconte des histoires encore plus incroyables que le dernier film de Sylvester Stallone. Il y a des raisons à ce phénomène. Avant 7 ans, notre tout petit distingue mal la réalité de la fiction. Il a donc tendance à présenter comme réel des récits imaginés. Il ne comprend pas encore que mentir est mal. Pas plus qu'il ne réalise que personne ne le croit quand il affirme que c'est un éléphant volant qui a englouti tous les biscuits. Il est donc parfaitement inutile de le critiquer pour ses fabulations. Après 7 ans et plus, notre enfant a acquis une certaine conscience morale. Il est capable de dissimuler la vérité dans le but de se mettre en valeur ou de servir son intérêt personnel. Le bon plan, on essaie de comprendre ses motivations plutôt que de condamner simplement son comportement. Veut-il compenser une faible estime personnelle, éviter une punition? On lui donne aussi la chance de réparer sa faute. Eh bien, notre émission est déjà terminée. Merci à vous d'avoir passé cette petite heure avec nous. Merci également à Mathieu Tessier pour sa mise en onde, ses judicieux choix musicaux. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220 ou sur canalm@vuetvoix.com, reprise de notre émission 13h et 21h. Voilà, merci à Louise.
Merci, bonjour.
Bonne semaine.